La chronique des libraires.
Bonjour, c'est la librairie des signes qui vous parle. Donc, Charline, Claire et Camille. Moi, c'est Charline, donc du rayon jeunesse, hein, je vous le rappelle. Aujourd'hui, je vais vous parler du vieux truc. Parce qu'il y a trop de nouveautés en ce moment, il y en a trop. Alors, ça m'énerve, donc je vais vous parler de vieux trucs. Là, je vais vous parler d'un album qui est sorti en fin d'année 2014, je sais plus, je viens de regarder.
2012, septembre
2013. Ça s'appelle Le loup qui mangeait n'importe quoi. C'est chez Mango Jeunesse. C'est Christophe Donner au texte et c'est Manu Larsenet à l'illustration. Manu Larsenet que vous connaissez certainement en BD. Il a fait Le Combat Ordinaire, Le Retour à la Terre, il a fait Blast, il a illustré Le Rapport de Brodeck. Voilà.
Il n'a que des choses tristes.
Le Retour à la Terre, c'est pas triste.
Ah non, c'est rigolo.
Bah voilà, donc
mais
pas que
pas
des
tristes. C'est la vie, c'est beau. Oui, combat c'est ordinaire.
Mais des fois, c'est triste.
Donc il faut lire Le Combat Ordinaire. Parce
c'est aussi
vraiment...
pour ça que c'est beau. Le Combat Ordinaire, c'est quand même. Enfin, c'est vraiment un truc à lire. Pardon, vas-y.
Donc ça, c'est Le loup qui mangeait n'importe quoi. Donc c'est un album pour les enfants. Pas 25 ans, parce que c'est quand même un petit peu. Il y a beaucoup de textes, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, le truc, c'est que tout est écrit en vers. Donc déjà, c'est drôle, je trouve. Et c'est l'histoire d'un loup comme je vais vous lire la première page. Il était une fois près du bois de Saint-Cloud, un loup sans foi ni loi, un peu relou. Il avait faim, c'était l'hiver, il était très très en colère. Il n'avait pas mangé depuis le mois d'octobre, lui le grand, le méchant carnivore. Donc en fait c'est un loup qui a très très faim et en gros il va bouffer tout ce qu'il trouve.
Manger Charlie, tu es au rayon jeunesse, manger.
Oui mais c'est un loup justement.
Donc il va manger tout ce qu'il trouve. Donc il tombe, le première personne entre guillemets sur qui il tombe, c'est un mouton. Il dit oh, je vais te manger et le mouton lui dit oh non, ne sois pas fou, ne me mange pas parce que moi j'arrête pas de rôter. Et si tu me manges, tu vas te mettre à rôter aussi. Le loup ne dit qu'à cela ne tienne, je te mange. Donc il mange le mouton. Et au final, il se met à rôter. Il rote et ça pue, tout ça. Après, il croise un cochon qui lui dit « Non, ne me mange pas. Pourquoi je sais plus. »
Est-ce que il pète, je crois, Charlie.
Je crois qu'il pète le cochon.
Voilà, il pète le cochon. Je t'aide. C'est compliqué pour un adulte de lire un album jeunesse.
Donc le cochon pète, lui dit « Non, parce que si tu me manges, tu vas te mettre à péter aussi. Oh, c'est pas grave, je te bouffe. » Du coup, on se retrouve avec un loup qui rote et qui pète. Et il tombe sur un petit lutin. Et le petit lutin lui dit « Non, ne me mange pas, parce que moi, je mange mes crottes de nez. » Et du coup, tu vas te mettre à manger tes crottes de nez. Donc en fait, le loup, il devient vraiment n'importe quoi. Il y a aussi, il mange des jumelles, une qui range ses ongles et l'autre qui entortille toujours ses cheveux. Enfin bref, on se retrouve avec un loup qui rote, qui pète, qui mange ses crottes de nez et tout ça, tout ça.
Aussi.
Et qui mange ses ongles. Et voilà. Et c'est trop drôle, juste, en fait. Je vous raconte pas la chute, parce que c'est voilà.
Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a une chute, parce que là, t'as juste dit « et voilà ». Et quand même, avec un peu de chance, histoire...
Il y a une chute, mais c'est très drôle. Et puis, même pour... En fait, presque plus pour les adultes, mais je pense que les enfants peuvent bien s'éclater aussi. Ça parle de prout, ça parle de ro, ça parle de crotte de nez, tout ça. Donc c'est amusant. Donc c'est drôle. Et puis c'est Manu Larsenet, et puis moi j'aime beaucoup.
Oui, un de tes sujets favoris de toute façon, crotte de nez.
Voilà. Donc je rappelle, ça s'appelle Le loup qui mangeait n'importe quoi, par Manu Larsenet et Christophe Donner, et c'est chez Mango Jeunesse. Et c'est sorti il y a un petit moment, mais je l'ai toujours en rayon parce que c'est trop cool.
Alors maintenant, on va parler de cinéma. Ça va changer un peu. On va parler de la revue de Distorsion, Le cinéma français, c'est de la merde. Alors, je ne peux pas vous énoncer tous ceux qui écrivent dedans parce qu'ils sont nombreux. Ils étaient déjà venus chez nous en dédicace.
Et je confirme, ils sont nombreux.
Ils sont vraiment nombreux.
Ils sont brillants aussi, mais voilà. C'est ça qui est bon.
Oui, c'est beaucoup d'hommes pour peu de femmes à la librairie. Bon, on ne s'en plaint pas non plus. Écoutez, ça va être très simple, je vais vous lire ce qui est marqué derrière parce que ils ont fait un très très bon quatrième de couverture qui est génial. Donc voilà, je lis. Après un premier volume taré, voici 75 nouveaux films français exhumés, dépoussiérés, enluminés, des films rares, inconnus, oubliés, incompris, de toutes les couleurs, de tous les genres, de toutes les époques. Une célébration du cinoche hexagonal. Et on évite les clichés, les ultra-classiques, les rengaines gâteuses, les films cités en boucle depuis 30 ans. Au contraire, ici on découvre, on se marre, on pleure, mais surtout on se fait pas chier. Alors voilà, si vous avez envie de le lire, moi je vous le conseille, c'est sympa, mais surtout on apprend des choses, ce qui quand même devient de plus en plus rare dans certains livres. Voilà, il y a des films qu'on découvre. Franchement, moi, bon, je dirais, franchement, plus de la moitié, je ne les connaissais pas. Et c'est vraiment intéressant, ça donne envie de les voir, là, tout de suite, dès qu'on lit. Comme par exemple, La Baston, de Jean-Claude Missienne. Je ne l'avais jamais vu. Bon, c'est dur. Hein. C'est un film assez dense, un peu politique, mais vraiment très, très intéressant. Le texte est de Jérôme Potier. Je vous le conseille. Ça change des livres que nous avons d'habitude sur le cinéma. C'est pour tout le monde. Hein. Je dirais qu'on peut lire même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en cinéma et qui a envie de découvrir des films français.
Mais justement, c'est peut-être presque plus pour les gens qui ne connaissent pas trop le cinéma, en fait.
Exactement. Exactement. Et après, c'est plus une revue, pour ceux qui connaissent le cinéma, je dirais presque une revue d'art. C'est une revue qu'on garde chez soi parce qu'elle est vraiment magnifique. Dessus, on a donc Catherine Deneuve.
C'est Catherine Deneuve ?
Ah oui. Oui, c'est Catherine Deneuve. Oui, c'est parce qu'en fait, ils ont déformé sa bouche.
Comme sur le premier.
Un petit clin d'œil, c'est rigolo.
Ils avaient déformé Belmondo sur le premier.
Oh, Charline, tu es parfaite. Elle ne lit pas que de la jeunesse, Charline. Donc voilà, je vous le conseille. Le cinéma français, c'est de la merde chez Distorsion.
Alors, moi, je vais vous parler, pour le coup, de nouveautés. C'est deux livres qui ne sont pas encore sortis au moment où je vous parle. On est en décembre. C'est des livres prévus début janvier. Le 11 janvier pour l'un, l'autre le 8, je crois. C'est deux petites pépites qui vont réchauffer pour l'hiver. C'est vraiment des romans qui font du bien sans être naïfs pour autant, qui parlent d'amour, qui parlent de lien, qui parlent de famille. Alors, le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est Joachim Schnerf, Cette nuit, chez Ulma. Donc, c'est un texte que j'aime vraiment bien. Il a été écrit par une personne que j'aime vraiment bien aussi, et dont le premier roman qui était paru à l'Olivier... J'oublie même le titre parce que son premier roman, en fait, ne m'avait pas du tout plu. Je lui avais dit, parce qu'il m'avait posé la question, et donc je lui avais dit pourquoi ce roman, son premier roman ne m'avait pas plu. Et j'avais le sentiment qu'il... avec son premier roman, qu'il n'osait pas raconter une histoire mettant en scène des personnages qu'il avait en tête. Et c'est exactement ce qu'il arrive à faire dans ce deuxième roman. Donc j'ai eu le bonheur de pouvoir lui dire que j'aimais beaucoup son livre, que ça m'avait vraiment ému. Et d'ailleurs, il sera en rencontre à la Librairie des Signes le 16 février. C'est l'histoire d'un homme, Salomon, qui a été déporté enfant à Auschwitz, dont la femme est morte et qui se souvient de sa femme la nuit précédant la Pâque juive. Donc c'est une nuit dans la tête d'un homme, dans la vie d'un homme. C'est un texte très doux parce que c'est un texte de deuil, mais en même temps c'est très drôle si on a un goût pour l'humour noir, parce que Salomon, le personnage principal, a un humour très noir, enfin un humour qu'il appelle lui-même concentrationnaire. Il est tout le temps en train de faire des blagues déplacées selon sa famille, sur les camps et son expérience. Et donc voilà, c'est l'histoire de cette nuit. Il parle de sa famille, il raconte ses enfants qui sont pas forcément des personnages sympathiques, mais qui sont profondément humains. Il y a plein de scènes familiales, puisque c'est ce qui lui vient à l'esprit, qui sont un peu comme des films de Piala. Elles sont hyper denses. On voit les liens, on voit les caractères, les défauts, les côtés attachants. Voilà, c'est vraiment émouvant. C'est un livre parfait pour l'hiver, pour bouquiner au chaud, au coin du feu. Et voilà, et penser aux gens qu'on aime. Et aussi, c'est un texte, c'est curieux parce que vraiment, c'est il y a une légèreté mélancolique dans ce texte qui est au final un texte sur le deuil et qui parle de la façon dont on est tous démunis devant la perte d'un être aimé et de la façon dont on est tous des enfants à ces moments-là. Voilà, c'est Joachim Schnerf, Cette nuit chez Ulma, c'est prévu pour janvier. Et le deuxième, c'est Comme le cristal au serpent à plumes de Sipora Petit-Jancerre. Une autre histoire complètement, c'est l'histoire d'une, d'une sœur, et de, d'une sœur plutôt, plutôt fortunée, on va dire. Elle a plutôt eu la chance, elle a fait des investissements intelligents dans sa vie, ce qui fait qu'elle vit de, d'une activité qu'elle apprécie. Elle, elle fait du rédactionnel pour des agences immobilières et ce, ce genre de choses. Et elle tient un gîte... voilà, donc elle, elle vit assez bien dans un cadre très agréable et elle a une vie dont elle est assez satisfaite. Elle a une jardinière aussi, Anne-Lise, je vous dirai un extrait qui est assez rigolo après. Et elle a un frère, Franz, et son frère Franz, donc, qui lui est un peu... un peu moins heureux, en fait, qui est resté, qui a hérité du domaine familial qui se situe dans le domaine du Grand Gland. Ça situe un peu le contexte, voilà. Donc, c'est l'histoire de ce frère et de cette sœur, qui ont des vies assez différentes, qui sont liées comme des frères et sœurs peuvent l'être, c'est-à-dire intimement, mais pas forcément de façon proche. Et donc, il y a Franz qui vit au domaine du Grand Gland. Je vous lis l'ouverture parce que c'est vraiment savoureux et ça donne bien le, l'idée du livre. Mais le premier chapitre s'appelle Lento, donc ça commence lentement, mais j'ai envie de vous emmener un peu plus dans le vif du sujet. Donc, c'est le deuxième paragraphe, en fait. Le Grand Gland. Au début, Lisette et Franz prononçaient volontiers et devant toutes sortes de gens le nom du domaine. Et puis, au fil des années, ils avaient commencé à relever les remarques ironiques et les sourires gênés. Alors ils avaient opté pour cette version. On vit dans une résidence privée. Certaines personnes se contentaient de hocher la tête. D'autres leur demandaient « Elle est où ta résidence ?»« Près de Bouglinval. »« Ce ne serait pas le gland ?» Le gland. Inutile d'en dire plus. Les gens du coin se comprenaient. Voilà, donc ça commence comme ça. C'est vraiment, c'est bien écrit, c'est chouette. Il y a ce canapé familial qui apparaît soudain sur le trottoir de France et qui va permettre aux frères et à la sœur de se retrouver, quoi, et de nouer de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Il y a le frère, donc, assez... on va dire marginal, quoi. Il est apiculteur, il comprend rien à rien, quoi, pour dire les choses clairement. Il est amoureux de sa cousine depuis qu'il a 15 ans et qu'il l'a embrassée une fois. Et, enfin, voilà, c'est vraiment des personnages très attachants qui vont se retrouver dans ce livre, sur ce canapé qui apparaît et disparaît, d'ailleurs, au fil du livre. Voilà, c'est archi plaisant, c'est Comme le cristal. J'aime pas trop le titre, pour être honnête, mais c'est Comme le cristal. Ça fait plein de petits éclats, c'est lumineux, c'est chaud, c'est parfait.
Ah, c'est beau ce que tu dis, Camille.
N'est-ce pas, c'est mon envolée lyrique du jeudi matin. Et c'est donc Sipora, Petit-Jancerre, apparaître le 11 janvier 2018 au Serpent à plumes.
On va continuer dans le beau, dans l'art, dans la peinture. C'est une BD. Donc c'est La Vida, la bohème de Picasso et Casagemas de Tito Alba chez Vertige Graphique. Alors c'est l'histoire de l'amitié, d'une amitié masculine entre Picasso et Casagemas. Il faut savoir que c'était de grands amis, mais en même temps de caractère très fort, deux artistes, donc ils se copient, ils se disputent, ils se critiquent. Ils se motivent en même temps, ils se soutiennent et ils ont vécu vraiment, je dirais, une amitié très forte. Et le titre, donc La Vida, c'est le tableau le plus énigmatique de la période bleue de Picasso et dont le personnage principal a les traits justement de Casagemas. Donc c'est aussi un hommage à son ami, bien qu'on peut dire que leur amitié a été très, très chaotique. Donc, c'est cette histoire qui est absolument magnifique, une histoire d'homme, avec un dessin, on va dire, très, très, très grave, dur, mais en même temps, belle couleur, c'est poétique. De temps en temps, on a un joli bleu qui apparaît, le rouge qui est toujours là, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce fameux rouge de Picasso, voire même ce bleu qui apparaît. C'est tout simplement magnifique. Et puis, on parle du Paris de cette époque. Donc, Montmartre, le Moulin Rouge. Donc, je vous le conseille. C'est La Vida, la bohème de Picasso et Casagemas, Tito Alba chez Vertige Graphique. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il a un format, on va dire, Bah de romans...
Un peu plus grand quand même.
Un peu plus grand, on est d'accord. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a une couverture dure et on peut l'emporter avec soi partout.
On peut le mettre dans la poche.
On ne peut pas le mettre dans la poche, Charline, mais presque. Mais on peut le mettre dans son sac à main.
Oui,
voilà.
Si on a un grand sac à main.
Oui, vraiment, je vous le conseille. C'est une magnifique histoire parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient cette amitié. Et c'est tout simplement beau.
Moi, je vais vous parler d'une petite histoire d'amitié aussi, mais pas seulement, aussi de famille. Ça s'appelle, c'est un petit roman pour pré-ado, on va dire, à partir de 9 ans pour les très bons lecteurs, jusqu'à 12-13 ans, ça peut encore passer. Ça s'appelle « Il n'y a pas de héros dans ma famille ». C'est chez Actes Sud Junior et c'est par une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Jo Witek, qui a fait plein de choses d'ailleurs. Et pas, elle a fait aussi des romans un peu policiers, un peu thrillers qui sont très cool. Là, elle s'adresse aux plus jeunes. Donc, en fait, on retrouve Maurice Dambeck. Maurice Dambeck, qui est un petit garçon qui a en fait un peu deux personnalités, on va dire. Il a sa personnalité de Maurice quand il va à l'école, où il est très bon à l'école, il est sage, il dit pas de gros mots, il fait bien ses devoirs, etc. Et il a son petit double qui s'appelle Mo quand il rentre chez lui, c'est-à-dire que Mo, en fait, il vit dans un HLM avec ses parents, son papa qui, tous les dimanches, va... à la décharge pour récupérer des trucs et revendre tout ça sur les brocantes au black, comme il dit. Donc Mo va apprendre ce que c'est que le black aussi. Il y a son grand frère qui fait des allers-retours en prison. Chez lui, la télé est toujours allumée, tout le monde parle fort. Tout le monde dit des gros mots, donc lui aussi. Enfin voilà, c'est un peu cette ambiance-là. Et donc Mo et Maurice, donc Mo sait très bien qu'il doit avoir ces deux personnalités-là s'il veut être bien à l'école. Tout se passe bien jusqu'au jour où il doit se rendre chez son ami Hippolyte, donc son ami de l'école, pour faire un exposé. Il va arriver chez son ami Hippolyte, qui est enfant unique. Qui vit dans une belle maison, dans les beaux quartiers. Sa maman cuisine pour le goûter. C'est calme chez lui, tout est bien rangé, tout est propre. Et surtout, sur le mur du salon, il y a des milliards de photos de gens de sa famille, donc des ancêtres, qui ont tous accompli de grandes choses. Donc on va avoir des prix Nobel, des héros de guerre, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc la photo avec le nom à chaque fois et ce que la personne a accompli. Et malheureusement, Mo va se mettre à avoir honte de sa famille à lui, parce que chez lui, c'est pas ça. Chez lui, pour parler français, c'est le bordel. Comme dit le titre, il n'y a pas de héros dans sa famille. Donc il va se mettre à avoir honte, mais en même temps, il a honte d'avoir honte. Donc en fait, c'est tout un questionnement. Et en fait, il va commencer à poser des questions à sa maman, à son frère, à son père. Pourquoi ils vivent comme ça? Pourquoi chez eux, c'est pas comme ci? Pourquoi c'est pas comme ça? Et là, ça se bouscule un peu dans sa tête. Et sa famille va faire quelque chose de très bien. C'est l'emmener voir une statue en Bretagne. Et en fait, il va découvrir que cette statue, c'est un de ses ancêtres, en fait. Et que c'est pas parce qu'on affiche pas dans le salon les photos, des choses qu'il n'y a pas de héros dans sa famille. Et je vous ai un peu raconté la fin, mais parce que c'est vraiment très beau. Moi, il m'a presque arraché une petite larme, parce que c'est une grosse réflexion sur
la famille.
Sur la famille, sur les différences, sur les différences de milieu social. Et je trouve que c'est super que cette auteure, elle ait fait un texte comme ça pour les jeunes, parce que c'est
vraiment trop bien. Voir des ados, hein, parce que...
Des ados aussi. Mais c'est juste que, bon, c'est... Au niveau du texte, au niveau de l'écriture, ça s'adresse quand même plutôt aux plus jeunes. Parce que Mo, il est encore à l'école primaire, hein, si je me souviens bien. Il est en CM1 ou CM2. Donc, mais bon, après, c'est vrai que ça n'empêche pas de le faire lire aux plus grands. Je vous rappelle, donc, ça s'appelle « Il n'y a pas de héros dans ma famille ». C'est par Jo Witek, qui est une femme, chez Actes Sud Junior. Et c'est trop bien. À bientôt.
Retrouvez ces conseils de lecture et bien d'autres à la librairie des signes à Compiègne.